Philippe Langlois, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est aujourd'hui le deuxième volet de votre série consacrée aux musiques qui ont révolutionné le cinéma.
Tout à fait Delphine, nous poursuivons notre périple au cœur des musiques qui ont secoué l'histoire du cinéma. Il sera aujourd'hui question de deux films qui ont vu le jour dans les années 30, deux documentaires britanniques qui utilisent non pas une musique révolutionnaire, mais qui plus largement développe l'idée d'une utilisation remarquable de la bande sonore, une expérience qui mérite d'être étudiée plus en détail pour en comprendre les aspects novateurs. Il s'agit de Song of Ceylon de Basil Wright en 1934 sur une musique de Walter Lay, ainsi que Night Mail de ce même metteur en scène, un film qu'il co-réalise avec Harry Watt en 1936 sur une musique d'un tout jeune compositeur, Benjamin Britten. Dans les années 30, le documentaire anglais a bénéficié d'une reconnaissance internationale. Une renommée due en partie à la personnalité de celui qui dirige et produit ses films, l'Écossais John Grierson. John Grierson créera un style de documentaire filmé incomparable, reposant sur l'utilisation de l'outil cinématographique à son plus haut degré de possibilités techniques, notamment dans l'emploi du son. Tous ces éléments de la bande-son, la parole, la musique et les bruits sont considérés avec une égale importance pour être fusionnés et former un tout cohérent et significatif. Deux films illustrent particulièrement cette utilisation révolutionnaire du son au cinéma, Night Mail en 1936 et Song of Ceylon 1934 de Basil Wright. Frappé par la perception qu'il eut de l'île de Ceylan, terre de contraste, de culture et de tradition, Basil Wright a cherché à éveiller le plus possible les sens du spectateur. Pour restituer cet effet d'hyperperception qui touche le visiteur de l'île, Basil Wright décide d'utiliser au maximum les possibilités de contraste, d'opposition, de redondance que le son et l'image peuvent offrir. À ce titre, une étroite collaboration avec le compositeur Walter Lay s'est dessinée et un grand soin a été accordé pour l'enregistrement du son et des musiques. Le thème principal du film représente la tradition religieuse et la beauté mystérieuse de Ceylan, telles qu'elles apparaissent à l'œil occidental. Basil Wright tente de restituer cette sensation par une succession d'images impressionnistes soigneusement choisies, accompagnées d'une musique et d'un commentaire très poétique. L'emploi de musique traditionnelle sri-lankaise constitue probablement, en 1934, l'un des premiers témoignages sonores de musique extra-européenne. Quant à la partition originale de Walter Lay, légèrement teintée d'orientalisme, elle reflète l'oreille d'un compositeur qui cherche à s'adapter aux règles musicales d'un autre pays, d'une autre culture.
Shadow is cast from this mountain for a space of 70 miles, formed, as it seems, of strange vapors. For it lieth not on the land, but a little above it, so that the hills and valleys appear veiled beneath.
Dans l'extrait que nous entendons, tous les éléments présents à l'écran convergent vers une certaine unité. Un plan fixe sur les montagnes, baigné dans la lumière du petit matin, un poème sur l'ombre de la montagne sacrée, déclamé très doucement, et une musique impressionniste à base de flûte et de chant, dans l'esprit du troisième nocturne de Debussy, Sirène, le tout mélangé avec de la musique traditionnelle en arrière-plan. Juste après cet interlude musical, poétique et contemplatif sur la beauté des montagnes, le film nous offre le premier exemple d'opposition audiovisuelle. Sur des images majestueuses d'oiseaux volant au-dessus de l'eau, suivies par d'amples mouvements de caméra, répond une musique constituée d'une multitude de cloches superposées. Comme nous le verrons plus tard, les cloches symbolisent le caractère divin des choses, la nature est ainsi rapprochée de la création divine. La bande sonore ne se contente pas seulement de mélanger des musiques et des textes, les bruits ont également leur place dans cette organisation sonore. Dans la deuxième partie du film, intitulée « L'île vierge », où Basil Wright s'attache à montrer que l'île vit et que ses habitants sont heureux, cette idée est illustrée par la vision des hommes et des femmes au travail. Le bonheur semble transparaître dans la manière harmonieuse et presque musicale d'organiser les bruits des marteaux, des scies et des roues à filer. Comme Ruttmann l'avait fait dans Voronin 2, ou encore Dziga Vertov dans Enthousiasme. Le montage sonore dynamise le montage des images, la succession des bruits répond au rythme des images.
They are very active and nimble in their limbs and very ingenious, for except ironwork, all other things they have need of, they make and do themselves, insomuch that they all build their own houses.
Dans la séquence où les hommes piétinent la boue pour fabriquer des briques avant de les disposer sur les murs d'une future habitation, c'est le bruit d'une brique que l'on dépose en gros plan qui permet de basculer dans la séquence musicale suivante. Dans cette scène, le riz est lancé dans les airs pour être débarrassé de sa poussière. À la rapidité de la scène précédente, rythmée par les bruits et les plans rapprochés, s'oppose la fixité d'un plan d'une très grande beauté, où la caméra est prise dans un tourbillon de poussière lumineuse. Relayée par la légèreté d'une musique rythmée qui semble souligner l'envol de toute cette poussière dorée, une nouvelle fois, le bruit du riz qui retombe se mêle au rythme de la musique.
The women's hazifri is to beat the rice out of the husk, which they do with an ebony pestle in a wooden mortar.
Quand Basil Wright intitule la troisième partie de Song of Ceylon « Les voix du marché », il ne fait point référence à la ferveur vocale qui anime traditionnellement les marchés indiens. C'est en fait de commerce international dont il est question, et plus particulièrement de communication entre les comptoirs indiens et les grossistes de la métropole. Les messages sont envoyés en morse, par télégraphe, et concernent les commandes de produits indiens passées par les États auprès de leurs différents comptoirs. Les voix s'enchevêtrent dans toutes les langues, français, anglais, allemand, mélangées avec les sons du télégraphe, le bip-bip du morse et les sonneries de téléphone formant une véritable tour de Babel sonore. La vitesse du montage, la superposition des bruits et des voix opposent bien évidemment la modernité de ces moyens de communication à la vie tranquille des insulaires.
Euralia 83, 1.5, Yetian Tot 16, 4.5, 7.5, 6.5, Carolina 178.
L'offre de pied de Ceylan, cette semaine, est montée à 88 400 kilos. La compétition a été bonne à la vente de l'entrée et les deux latins sur normaux.
Die wöchentliche Lieferung von Ceylan T, die 22.000 Euro in Bezug, wurde heute gesteigert. Sie konnte bei lebhafter Konkurrenz schnellen Absatz finden.
East by south of half east, sir.
L'aspect religieux occupe une place très importante dans la vie des habitants de Ceylan. Quotidiennement, les prières du lever et du coucher du soleil, les rites d'offrande offerts aux dieux ou la pratique de la danse qui conduit vers la transe rythment la vie des insulaires. C'est ce thème qui occupe la dernière partie de Song of Ceylan, où un petit groupe de danseurs se livre aux danses sacrées du Kathakali, cette danse rituelle d'Inde du Sud qui, dans le film, conduit à un état extatique. Basil White filme les danseurs en les plaçant au centre du cercle qu'ils forment. Les mouvements rapides de caméra en panoramique et les fondus enchaînés symbolisent la sensation de tournis qui envahit chacun d'eux. Puis un sourd grondement de cloche apparaît très doucement avant de s'amplifier et de prendre le pas sur les rythmes et les chants du Kathakali pour finalement remplir tout l'espace sonore. Ces sons de cloche sont entendus comme s'ils étaient passés à l'envers, c'est-à-dire à partir de leur résonance qui s'épaissit pour aboutir sur le choc initial donné sur la percussion. Ce procédé permet aussi bien, d'un point de vue visuel que sonore, de ressentir la montée de la transe, puis son avènement suprême. Le dernier coup sur la cloche dynamise une nouvelle fois le montage, puisqu'il montre quelques plantes dans un cadre sombre, suivi d'un oiseau nageant sur un lac, comme à la première image du film. En 1936, Basil Wright et Harry Watt réalisent le documentaire Night Mail à la demande de l'Office général des postes pour montrer le travail qui est nécessaire à l'acheminement du courrier. 6 millions de kilomètres parcourus et 500 millions de lettres distribuées chaque année, telle est la mission que doivent accomplir les trains postaux qui sillonnent le pays. Night Mail retrace donc le parcours d'un de ces trains qui relie Londres et Glasgow tous les jours, hiver comme été. Pour réaliser ce documentaire, Basil Wright et Harry Watt ont constitué une équipe exceptionnelle. Le poète Winston Hugh Houghton pour écrire le commentaire, le compositeur Benjamin Britten pour écrire la musique. Dès le générique, la musique plonge le spectateur dans l'univers d'une aventure merveilleuse grâce à l'emploi d'une section de cuivre, de violons frémissants et d'une petite fanfare qui se déploie sur deux notes. Rapidement, ces deux notes s'accélèrent, imitant le bruit des essieux du train qui s'ébranle, pour se transformer aux cordes en une courte mélodie très vive, jouée en boucle. C'est l'ensemble du film qui suit ce modèle d'accélération jusqu'à ce que le train arrive dans le nord de l'Écosse, la dernière partie de son voyage. Dans cette séquence finale, nous assistons à une tentative absolument réussie d'unir étroitement l'image, la musique et le commentaire poétique d'Auden. Chaque vers du poème reflète ce que l'on peut voir à l'image, la traversée des marées, les jets de vapeur blanche, les champs mécaniques et les fours des industries. Lorsque la musique change de tonalité, l'image lui répond avec un nouveau paysage, moins accidenté, et un autre éclairage à l'approche de l'aube. Le montage se fonde alors sur l'accélération de la musique, plan de bielle, d'essieux, d'aiguillage, de rails. Ce montage culmine avant l'arrêt du train en gare d'Aberdeen sur les derniers accents triomphants de la musique de Britten. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de cette musique qui a le mérite de surprendre, surtout au regard de sa date de composition, 1936.
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner of the girl next door. Pulling up, he took a steady climb, the gradient's against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. The climb is done.
Down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes. Towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In the dark glens, beside the pale green sea lochs, men long for news.
Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations and applications for situations and timid lovers, declarations and gossip, gossip from all the nations, new circumstantial news, financial letters with holiday snaps to enlarge in, letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, cousins and aunts, letters to Scotland from the south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold and official. All the hearts are boring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and the spelt all wrong.
Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams. But shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
1936, Benjamin Britten, un extrait inédit du film de Basil White et Harry Watt, Night Mail. Tu vois ce que j'entends s'achève, un grand merci à tout le personnel du Centre Georges Pompidou qui nous a permis de visionner et d'enregistrer les extraits de ces films remarquables. Tu vois ce que j'entends vous est proposé par Philippe Langlois, mixage Franck Berger et Pascal Dupont, chargé de réalisation Gilles Mardi-Rossian.